Maître Arissou, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ce combat en faveur des enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil?
Ce combat est un combat d'abord humanitaire pour l'Afrique subsaharienne qui compte 85 millions d'enfants qui ne sont ni déclarés ni inscrits à l'état civil. Ce qui pose un réel problème pour ces enfants qui n'arrivent pas à terminer leur scolarité parce qu'il y en a qui vont pour la plupart à l'école sans acte de naissance, de la CIL au CM2. C'est au CM2 en fin d'année quand on commence à composer les dossiers pour passer le concours d'entrée en 6e et le certificat d'études qu'on se rend compte que ces enfants n'ont pas d'acte de naissance. Et ces enfants ne vont pas à l'école et ils sont jetés dans la rue.
Ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas inscrit à l'état civil, il est expulsé de son école ?
Il est expulsé naturellement de son école, puisqu'il ne peut pas présenter les examens d'entrée en 6e ni les examens de CPE. Donc ses camarades font en 6e. Lui, il n'a pas d'acte de naissance, il n'existe pas, il est invisible. Donc les parents, pour des raisons souvent pas importantes, parce qu'ils parlent de distance, pour aller dans les communes, pour établir les actes de naissance. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de leur établir les actes de naissance. Tout cela fait que ces enfants, ou pour les plus chanceux, se retrouvent dans le secteur informel, d'autres dans la mendicité ou dans les écoles coraniques. À côté de ça, il y a aussi un problème économique. Parce que toutes les statistiques que les États africains subsahariens font sont fausses.
Et alors, pour un enfant qui n'est pas inscrit à l'état civil, c'est très compliqué aussi de trouver un emploi, j'imagine.
Oui, des emplois normaux, évidemment, c'est compliqué. On les prend comme des bonnes, on les prend comme des aides-chauffeurs, des motorboys, on les prend dans le noir. Quand ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas non plus de carte nationale d'identité à leur majorité. Donc, ils peuvent travailler dans le noir, mais ils ne peuvent passer aucun concours administratif. Ils ne peuvent pas être recrutés dans la police, ils ne peuvent pas être recrutés dans l'armée, etc.
Et pour se marier?
Oui, justement, pour les jeunes filles, ça favorise largement, grandement, les mariages des filles mineures.
Et pourquoi les jeunes filles qui ne sont pas inscrites à l'état civil se marient plus jeunes que les autres?
Oui, évidemment, parce qu'elles sont laissées à elles-mêmes, elles ne vont pas à l'école. Un enfant qui ne va pas à l'école, elle est à la maison, elle n'a rien à faire, à part aider sa maman aux tâches ménagères. Donc, n'ayant rien à faire, les parents ont peur qu'elle aille rentrer dans la prostitution ou bien qu'elle aille leur ramener une grossesse. Donc, les parents les envoient en mariage très vite.
Alors vous dites qu'il y a quelque 85 millions de petits et de petites africaines qui ne sont pas inscrits à l'état civil. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas inscrit à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, peut encore s'inscrire? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour rattraper le temps perdu?
Il n'est pas trop tard parce que le droit civil leur permet d'obtenir des jugements supplétifs auprès des tribunaux. Or, c'est un parcours de combattant. Pour un paysan, une paysanne, d'obtenir un jugement supplétif, il faut aller devant les tribunaux, il faut payer la consignation. C'est pour cela que dans le livre, nous avons parlé d'organiser des audiences foraines gratuites à grande échelle pour pouvoir déclarer, obtenir des actes de naissance à un maximum d'enfants. Nous l'avons fait en 2016 avec le concours de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, dans la région rurale de San Pedro. Ça a marché. Tous les enfants qui sont scolarisés dans la zone ont été inscrits parce qu'une loi coloniale permet au procureur de la République de signer une ordonnance qui permet aux enfants scolarisés de se faire enregistrer.
Donc vous voudriez étendre cette expérience d'audience foraine à tous les pays africains concernés?
Oui, oui, tous les pays africains, parce qu'il y a des pays comme la RDC Congo où à peine 25% des enfants ont des actes de naissance à cause de la guerre. Donc je pense que l'APF, l'association parlementaire francophone, et l'OIF vont en faire un sujet majeur dans les actions qu'ils vont mener pour le mandat à venir.
Le mandat, a priori, de Louise Mushikiwabo.
C'est ce qui semble, puisque le Canada a retiré son soutien à Madame la secrétaire générale, Madame Michaëlle Jean. Donc, je crois que la voie est libre, la voie est balisée, elle est libre pour Madame la ministre des Affaires étrangères du Rwanda.
Et vous en pensez quoi?
Je pense qu'elle est à la hauteur, ayant été ministre des Affaires étrangères pendant des années dans un pays quand même qui réussit économiquement et qui sort d'un génocide. Je pense qu'elle a la capacité et les moyens intellectuels avec le soutien du président Kagame et de l'Union africaine. Je pense qu'elle pourra réussir son mandat.
Et vous, maître Arissou, qui venez de passer 3 ans en prison au Cameroun, parce que vous êtes un proche de l'ancien secrétaire général Marafa Hamidou Yaya, qui est tombé en disgrâce, est-ce que vous pensez que le Rwanda est le mieux placé pour défendre la démocratie et les droits de l'homme, qui sont deux des grandes valeurs de la francophonie ?
Oui, la question mérite d'être posée. Mais vous savez que depuis la charte de Bamako, l'un des principaux objectifs de l'OIF, c'est de défendre les droits de l'homme. Et regardez la procureure de la Cour pénale internationale. Elle a été nommée autant de jamais, n'empêche qu'elle ait fait son travail.
Et puis, Fatou Bensouda, l'ancienne ministre de Yahya Jammeh.
Et puis en plus, je pense que le président Kagame est quand même quelqu'un d'assez intelligent. Si aujourd'hui il a accepté de présenter sa ministre des Affaires étrangères, il s'est très bien, quel est le rôle que l'OIF doit jouer? Je pense qu'il est assez intelligent pour lui laisser les mains libres.
Maître Abdoulaye Arissou, merci.